9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end et bonne année. Je suis ravi de vous retrouver après ces deux semaines d'interruption. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit cette semaine vouloir emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Tout le monde en a parlé, mais c'est l'occasion de s'interroger sur la stratégie du gouvernement dans sa lutte contre la pandémie. Antoine Flahau, qui dirige l'Institut de Santé Globale à Genève, est mon premier invité. Le deuxième, ce sera Yves Bonnefond, le monsieur software du géant automobile Stellantis, qui regroupe Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, et qui a annoncé un accord historique avec le géant de la tech, c'est Amazon, pour fabriquer des voitures connectées. Et l'on terminera l'émission avec Laetitia Casta, qui fait un triomphe au Théâtre du Rond-Point. Elle sera avec son metteur en scène, Safi Nebout. Bonjour Antoine Flahau.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève. Vous êtes l'auteur de Covid, le bal masqué aux éditions d'Uno. Comment analysez-vous la stratégie actuelle du gouvernement français face à la vague de contamination? Est-ce qu'elle vous paraît lisible, cohérente?
Vous savez, on fait face dans toute l'Europe en ce moment, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays en dehors de l'Europe, à une vague sans précédent. Sans précédent dans cette pandémie et aussi avec extrêmement peu de précédent dans un passé récent. La vague Omicron, c'est une vague qui va concerner une très large proportion de la population. On voit aujourd'hui en France plus de 300 000 contaminations quotidiennes et probablement c'est sous-estimé. On peut donc s'attendre à ce qu'un large pourcentage de la population soit atteinte et donc on ne va pas enrayer le phénomène. Nulle part, pas plus en France que dans d'autres pays. On n'est plus aujourd'hui à se dire comment enrayer le phénomène. Je crois qu'on est plutôt en train de se dire comment protéger les gens les plus à risque pour qu'ils paient le tribut le moins lourd possible. Évidemment, toutes les personnes vaccinées vont être beaucoup mieux protégées que celles qui ne le sont pas, mais il faut savoir qu'il y a des groupes de la société qui ne peuvent même pas bénéficier du vaccin. Je pense aux enfants, aux petits-enfants en particulier. Il y a aussi des immunodéprimés qui malgré leur vaccin, voient des ruptures de leur vaccin et peuvent être très gravement atteints. Et puis bien sûr, les personnes âgées qui souffrent de ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire que leur immunité décroît très vite malgré la vaccination. Et donc, ces personnes-là, ainsi que les groupes qui s'en occupent, les enseignants, les soignants, les aidants, doivent probablement bénéficier de priorité parce qu'il va y avoir une grande désorganisation sociale liée à l'absentéisme, liée au fait qu'on n'a jamais connu une vague aussi importante et qu'il faut qu'ils aient priorité sur les tests, sur peut-être les masques FFP2, je ne parle pas des petits-enfants, mais de tous les autres, sur les vaccins, pour ceux qui ne le sont pas encore, et sur les traitements existants, notamment les traitements antiviraux.
En même temps, l'épidémiologiste Tahira Grove Kraus, l'une des plus hautes responsables de la santé au Danemark, a déclaré à la télé danoise que grâce à Omicron, ça pourrait être fini dans 2 mois. Et Olivier Véran aussi parle de dernière vague.
Cet optimisme-là n'est pas du tout hors de propos. Il est juste un tout petit peu anachronique parce qu'on est à la veille d'une vague énorme et un certain nombre de pays ne se rendent pas nécessairement compte de ce que c'est. En fait, les Français ont connu à l'île de la Réunion une vague énorme qui a concerné 40% des Réunionnais en 2006, c'était au moment du chikungunya. Quelque part, l'analogie n'est pas totalement absurde, à mon avis, parce que le virus du chikungunya était assez bénin chez la plupart des gens, comme le virus Omicron est assez bénin. Le virus du chikungunya a quand même tué une personne sur 1000 parmi les contaminés, et toute la société réunionnaise, pendant quelques semaines, a été à l'arrêt. Les médecins étaient débordés, les urgences aussi, pas seulement les réanimations. Bien sûr, après, peut-être qu'on va revivre tranquillement, plus tranquillement, parce qu'on bénéficiera d'une immunité plus partagée, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on n'en est pas encore à rêver de pouvoir complètement tourner la page.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré cette semaine vouloir emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés, ce qui a choqué beaucoup de monde. Vous en faites partie ou bien vous trouvez ça justifié ?
vous savez, il ne m'appartient pas, je pense, de commenter les propos des autorités des différents pays. J'habite et je travaille en Suisse. Et ce que je vois, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées ne sont pas de façon homogène des personnes anti-vax. Les Portugais ont évalué à 1%, peut-être 2%, le nombre de vraiment de personnes qui, de façon, je dirais, inébranlable, pensent que le vaccin est dangereux pour leur santé et ils ne pourront pas être convaincus par nos arguments, c'est clair. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont des gens qui hésitent encore un peu parce qu'ils ont des raisons d'hésiter qui sont tout à fait audibles et pour lesquelles on peut donner des arguments. Il y a aussi des personnes qui sont fragiles intellectuellement, qui ont des déficits cognitifs, des handicaps divers et qui ne se sont pas présentés à la vaccination. Il faut aller les chercher, cela, et leur proposer la vaccination. Et puis, il y a des personnes qui ont une grande défiance vis-à-vis de l'appareil de l'État pour des tas de raisons. On sait que en Amérique, par exemple, les Noirs américains ont une méfiance vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la police, de la discrimination dont ils pensent qu'ils font, qu'ils sont l'objet. Et je pense qu'il faut peut-être avoir une écoute plus importante, plus attentive vis-à-vis de ces groupes-là, parce qu'ils se mettent en très grand danger. Et le fait est qu'ils aussi participent à la saturation des hôpitaux qui, malheureusement, ne peuvent pas soigner correctement à ce moment-là des personnes qui ont d'autres maladies et qui peuvent en souffrir.
Le pass vaccinal, par exemple, ça peut être efficace, d'après vous ?
Alors, le pass vaccinal, comme l'obligation vaccinale, ce sont des mesures politiques que les politiques, chacun doit être dans son rôle. Moi, je suis scientifique, les scientifiques font des recommandations, et notamment on fait la recommandation d'une vaccination la plus large possible. Les réponses des politiques peuvent être le pass vaccinal ou l'obligation vaccinale. Les Portugais, que je citais tout à l'heure, et qui ont obtenu jusqu'à 98% de vaccination parmi les éligibles, n'ont jamais recouru à l'obligation vaccinale. Donc peut-être que ça n'est pas obligatoire dans certains contextes, peut-être que ça l'est dans d'autres, c'est aux politiques d'en décider et de le juger.
On fait une pause, Antoine Fao, je vous retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Antoine Fao, le directeur de l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève. On passe en revue la stratégie du gouvernement français à l'égard de la pandémie et de la vague qui s'annonce, qui va être considérable. Le retour de l'obligation de porter le masque en extérieur, Antoine Fao, ça, ce n'est pas du tout une recommandation scientifique.
Non seulement ça n'est pas une recommandation scientifique, mais elle nous distrait de l'essentiel. En fait, 99% des contaminations ont lieu à l'intérieur. Et probablement plus que 99% ont lieu dans ces lieux clos qui sont mal ventilés et dans lesquels du public est reçu, ou bien même des habitations privées, ou aussi d'ailleurs des transports publics. C'est dans ces endroits qu'il faut porter le masque. C'est dans ces endroits qu'il faudrait surtout réfléchir à améliorer la qualité de l'air intérieur. Tant qu'on n'aura pas une qualité de l'air intérieur qui ressemblera à la qualité microbiologique de l'air extérieur, alors on aura toujours ces contaminations, alors que sinon on pourrait espérer casser, couper 99% de ces contaminations.
Et la fermeture des frontières ?
Alors la fermeture des frontières, ça marchait assez bien, et ça marche assez bien à une époque déjà où l'on avait les précédents variants du coronavirus, et dans des endroits où les frontières sont fermables, si je puis dire. Je veux dire que quand vous êtes une île au milieu de l'océan Pacifique comme la Nouvelle-Zélande ou Atlantique comme l'Islande, reconnaissons qu'il est plus facile de fermer les frontières que quand vous êtes en Suisse, interconnecté avec tout le reste de l'Europe, ou quand vous êtes en France, interconnecté avec tout le reste de l'Europe. Donc la fermeture des frontières, elle est très illusoire dans nos pays. Elle n'a jamais fonctionné depuis le début de la pandémie. Elle n'a jamais été recommandée non plus par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il est vrai que avec les anciens variants qui avaient une durée d'incubation assez longue où l'on pouvait espérer pouvoir mettre en quarantaine pendant quelques jours les ressortissants de pays qui avaient décidé de fermer leurs frontières. Alors oui, cette fermeture des frontières a été clairement efficace. Mais c'est seulement dans ces circonstances très particulières et je dirais un peu historiques maintenant parce que avec le variant Omicron, c'est probablement totalement illusoire.
Omicron étant plus contagieux que Delta, il va forcément l'emporter et devenir majoritaire. Et s'il est moins virulent, comme on le pense actuellement, à quoi ça sert de le freiner? Puisque, vous le disiez, on peut atteindre, grâce à lui, l'immunité collective en prenant moins de risques qu'avec Delta, par exemple.
Dans quelques semaines, on aura la réponse à cette question. D'abord, on n'est pas très capable de le freiner. Donc, quand j'entends dire qu'on laisse filer le variant Omicron, oui, dans un certain sens, on le laisse filer, mais quand bien même on voudrait ne pas le laisser filer, regardez, il n'y a aucun pays de la planète aujourd'hui qui arrive à enrayer cette vague Omicron. Même, vous savez, les Autrichiens ou les Néerlandais qui ont confiné complètement leur pays pendant les fêtes de Noël se voient un redémarrage du mur Omicron avec la même force et la même intensité que chez nous. Donc je pense que malheureusement, on ne va pas pouvoir enrayer le phénomène. Est-ce que à l'issue de ce phénomène, on aura et on bénéficiera d'une forme d'immunité, en particulier de cette immunité qu'on appelle la médiation cellulaire? Il y a deux types d'immunité. Il y a celle qui vous fait augmenter les anticorps et puis il y a celle qui vous protège par vos cellules immunitaires. Eh bien, cette médiation cellulaire, elle apporte une chose, c'est qu'elle nous protège des formes graves de la maladie. Si grâce à Omicron, on est mieux protégé, avec le vaccin aussi d'ailleurs, contre les formes sévères de la maladie, alors peut-être en effet on aura gagné quelque chose avec cette terrible vague épidémique qui nous attend.
Et la quatrième dose de vaccin, est-ce qu'elle est toujours d'actualité?
On a un peu la chance, si je puis dire, d'avoir une sorte de laboratoire vivant expérimental qui est l'État d'Israël. En fait, Israël essaye cette quatrième dose comme Israël avait essayé la troisième dose. Moi, je n'étais pas de ceux qui étaient extrêmement enthousiastes pour la troisième dose, mais l'expérience d'Israël a été convaincante pour nous dire qu'elle permettait de parfaire le schéma vaccinal et que le vrai schéma vaccinal, c'est vraiment certainement d'avoir trois doses, en particulier pour favoriser cette immunité cellulaire dont je parlais, c'est-à-dire pour nous protéger contre les formes graves de la maladie. C'était très vrai pour le variant Delta, on a l'impression que c'est vrai aussi pour le variant Omicron. Est-ce qu'il va falloir une quatrième dose? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que les Israéliens se lancent un peu à tête baissée, corps perdu dans cette quatrième dose parce qu'ils font l'expérience comme nous d'une vague Omicron en ce moment. On verra donc le résultat, on verra si ça a servi à quelque chose et s'il y aura des différences notables entre les résultats d'Israël dans la gestion de cette vague Omicron par rapport à des États comme le nôtre.
Et la vaccination des enfants?
La vaccination des enfants de moins de 5 ans, malheureusement, elle n'existe pas encore, donc on ne peut pas la proposer ou la recommander. En revanche, les enfants de plus de 5 ans peuvent bénéficier et profiter d'un vaccin qui a été administré à des millions d'enfants, en particulier aux États-Unis, où on est très très rigoureux dans la surveillance des effets indésirables et qui n'a montré vraiment aucun danger particulier, très très peu d'effets indésirables, plutôt moins d'ailleurs que chez les adultes et moins que chez les jeunes adultes, et une très grande efficacité parce que les enfants ont un très bon système immunitaire. Donc on a un vaccin très sûr, très efficace, qui permet de protéger contre des formes graves qui sont assez rares chez l'enfant de Covid. Mais si on peut le faire, franchement, il ne faut pas s'en priver parce que je pense que tous les parents regretteraient beaucoup trop d'avoir des enfants hospitalisés demain pour des Covid alors qu'ils auraient pu vacciner leur enfant.
Merci Antoine Flao.
Merci.
On laisse passer une pause, on se retrouve avec Yves Bonnefond. On va parler de la prochaine voiture connectée.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Le géant de l'industrie automobile Stellantis, issu de la fusion l'année dernière entre PSA et Fiat Chrysler, vient de signer avec le géant de la tech Amazon un partenariat pour la future voiture connectée. Yves Bonnefond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le monsieur software et l'un des dirigeants du groupe Stellantis. C'est vous qui avez travaillé sur cet accord. Vous êtes toujours à Las Vegas où a lieu le Consumer Electronics Show où vous venez de faire cette annonce spectaculaire. En deux mots, qu'est-ce que ça promet aux futurs conducteurs ?
Alors, beaucoup de choses. D'abord, un cockpit de véhicules connectés qui offrira des nouveaux services, de la personnalisation grâce à de l'intelligence artificielle, avec la proposition spontanée des radios que vous écoutez, de la musique que vous écoutez, des numéros de téléphone que vous appelez. Tout ça pour vous rendre l'utilisation du cockpit plus facile.
Est-ce que ça concerne toutes les marques du groupe, c'est-à-dire Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Maserati, Opel, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Dodge, DS, j'en oublie ?
Oui, toutes les 14 marques du groupe sont concernées. C'est vraiment un accord transversal que nous avons formé et qui a comme objectif de mettre en œuvre notre stratégie software avec cet aspect de facilité d'usage que j'évoquais, et aussi la capacité de mettre nos véhicules à jour régulièrement, exactement comme aujourd'hui vous mettez à jour vos applications sur votre téléphone portable. Vous pourrez mettre à jour votre véhicule probablement à peu près tous les trimestres avec des nouvelles fonctions, de nouvelles expériences, de nouvelles manières d'utiliser le véhicule.
Alors, petite revue de détail, c'est Alexa, l'assistant vocal d'Amazon qui sera intégré dans le cockpit intelligent de vos voitures. Il permettra de commander quoi ?
Alors, à peu près tout ce que vous voudrez commander. Vous pourrez passer des coups de téléphone, vous pourrez demander un contenu de multimédia particulier, vous pourrez commander à distance votre maison, fermer la porte de votre garage, baisser la température, mettre en route l'alarme et l'inverse quand vous arrivez.
Oui.
Et vous pourrez aussi, dans l'autre sens, quand vous serez chez vous, vous pourrez pré-régler la température de la climatisation de votre voiture pour que la voiture soit directement à bonne température au moment où vous montez dedans. Vous savez que sur les véhicules électriques, c'est quelque chose de très important parce que si vous mettez à bonne température la voiture pendant qu'elle est en charge, vous ne tirez pas sur la batterie pour le faire et donc ça améliore l'autonomie du véhicule.
Et l'intelligence artificielle, en quoi va-t-elle nous seconder au volant ?
Alors l'intelligence artificielle va permettre à la voiture de faire deux choses. Elle va permettre de comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes tout seul dans votre voiture ? Est-ce que vous êtes plutôt sur un trajet professionnel où vous risquez de passer des coups de téléphone ? Est-ce que vous êtes plutôt en train de partir en vacances et vous avez envie d'écouter de la musique ou de passer une vidéo à l'arrière pour les enfants ? Et elle va vous proposer spontanément en fait ces options qui seront les plus pertinentes en fonction du contexte qu'elle aura interprété de votre voyage. Et puis la deuxième chose, c'est et là c'est pas le lien du tout avec ce qu'on fait avec Amazon, mais c'est important aussi, c'est la conduite autonome où l'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans la conduite autonome.
Mais notre véhicule va être personnalisé à un tel point, est-ce qu'on pourra encore le prêter ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, on pourra le prêter. Par contre, quand on le prêtera, évidemment, comme le véhicule n'aura pas, l'historique de la personne à qui vous le prêtez, cette personne ne pourra malheureusement pas bénéficier de la personnalisation que vous aurez tous les jours.
Et est-ce qu'on pourra encore se faire voler sa voiture ?
Alors... ça sera en tout cas de plus en plus difficile de voler les voitures. Dire que c'est impossible, c'est sans doute pousser trop loin le bouchon. Mais c'est vrai que globalement, la sécurité des véhicules va augmenter. On voit aussi des fonctions de surveillance qui utiliseront les différentes caméras qui sont à bord du véhicule. Vous avez aujourd'hui par exemple une caméra en haut de votre pare-brise qui permet de faire du freinage d'urgence si jamais il y a un obstacle qui est détecté devant le véhicule. Demain, cette caméra pourrait aussi être utilisée pour faire de la surveillance autour du véhicule, par exemple. Et donc, on voit que le logiciel va permettre d'interconnecter les différents composants du véhicule pour les utiliser à différentes fonctions. Et alors que par le passé, on avait en gros un composant, une fonction. Maintenant, ces composants pourront être gérés comme un ensemble pour vous délivrer de nouvelles fonctions. Typiquement, la caméra dont je parlais pourrait par exemple vous voir approcher de la voiture, vous reconnaître et déverrouiller le véhicule spontanément.
Oui, effectivement. Yves Bonnefond, pourra-t-on encore faire réparer sa voiture dans n'importe quel garage ? Ou bien est-ce qu'on va dépendre exclusivement des ordinateurs de la marque qui seront les seuls à pouvoir nous dire au fond où se trouve la panne ?
Alors il y a deux choses. D'abord, vous pourrez faire réparer votre voiture de temps en temps à distance. parce que de temps en temps, les véhicules ont des difficultés pour des raisons qui sont des raisons logicielles. Et comme on aura la capacité de diagnostiquer les voitures à distance et de les mettre à jour à distance, on pourra, dans un certain nombre de cas, rectifier le problème sans que vous ayez même besoin de vous rendre dans le réseau. Ensuite, vous savez que en Europe, la réglementation européenne impose aux constructeurs de fournir à tous les réparateurs agréés l'ensemble du matériel pour pouvoir réparer la voiture. Donc ça ne changera pas.
J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, Yves Bonnefond. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Yves Bonnefond, le monsieur software du groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, c'est à la fois Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Maserati, Abarth, Opel, Lancia, Alfa Romeo, qui vient d'annoncer un accord historique avec le géant de la tech Amazon pour produire les futures voitures connectées. Les voitures d'aujourd'hui, Yves Bonnefond, sont bourrées d'électronique, bourrées d'informatique. Il n'est plus du tout possible de fabriquer des voitures purement mécaniques comme autrefois ?
Alors, on pourrait toujours le faire, mais elles n'auraient pas le niveau de fonctionnalité et le niveau d'efficience qu'ont les voitures modernes. Si vous prenez un véhicule électrique, par exemple, l'ensemble de la chaîne de traction électrique aujourd'hui est pilotée de manière logicielle. Et plus ce logiciel est sophistiqué, plus la voiture a d'autonomie. Comme vous le savez, j'ai dirigé la marque BS pendant quelques années et j'avais engagé la marque en Formula électrique, les courses de véhicules électriques dans les centres-villes. On en a vu à Paris autour des Invalides. Et avec BS, on a remporté 2 fois ce championnat du monde et je peux vous dire qu'on l'a fait grâce au logiciel. On l'a fait parce qu'on avait la solution logicielle qui donnait la plus grande efficacité à la voiture sur la chaîne de traction électrique et aussi de récupération d'énergie au freinage. Donc toutes ces fonctions auxquelles on s'habitue sont des fonctions qui sont entièrement pilotées par le logiciel aujourd'hui.
Et vous n'avez pas l'impression que par nostalgie, on pourrait revenir à ces voitures purement mécaniques d'autrefois, un peu comme on revient au disque vinyle ?
Alors, il y a toujours des passionnés, et c'est très bien, qui sont amoureux des belles voitures anciennes. Ces voitures sont, on a de plus en plus souvent dans la rue, on les voit avec des expositions, avec des rallyes, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui durera toujours, cette passion de l'automobile, elle est ancrée dans nos sociétés et sans doute pour le meilleur.
Alors, tous vos véhicules vont être évidemment reliés à Internet et toutes nos données, je parle des données des conducteurs, vont être collectées par Amazon. Certains y voient un problème, pas vous ?
Alors, c'est pas exact de dire que toutes les données vont être collectées par Amazon. Il y a bien sûr la nécessité pour les utilisateurs du véhicule de donner leur accord aux données concernant les données qui sont collectées et leur usage. Il y a beaucoup de lois de protection de données dans les différentes géographies. En Europe notamment, on est très bien protégé. Et bien sûr, on respectera toutes ces réglementations. Si vous voulez, on fait cette expérience du logiciel, c'est pour améliorer l'expérience du client dans la voiture. L'expérience du client, ça commence d'abord par la confiance. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important que les clients aient confiance dans le véhicule, confiance dans ce qui est fait avec les données ou pas fait avec les données, et qu'ils donnent leur accord. Donc, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour nous, cette confiance du client. Et donc, on va donner toute la transparence nécessaire et la capacité au client d'agir là-dessus.
Alors, continuez de nous rassurer. Alexa, l'assistant fabriqué par Amazon, il ne va pas enregistrer nos conversations personnelles comme les enceintes connectées de Google ou l'application Google Assistant, par exemple. Google l'a reconnu en juillet dernier que ça arrivait qu'ils enregistrent les conversations. Là, ce ne sera pas le cas.
Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement encadré. Et donc, on appliquera évidemment cet encadrement. Et vous aurez contrôle total sur ce qui est transmis à l'extérieur du véhicule ou pas transmis à l'extérieur du véhicule. Et s'il y a des choses qui sont enregistrées pour améliorer la reconnaissance vocale de votre voix, vous pouvez aussi, vous aurez droit d'accès à ça et vous pourrez l'effacer, bien sûr.
Les données, le fait de collecter les données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Hein. Pour améliorer votre voiture, vous avez besoin de données.
Oui, absolument. L'intelligence artificielle carbure aux données, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment la base de l'intelligence artificielle. Et donc, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire d'abord le plus souvent avec des données qui sont anonymisées. Par exemple, si vous travaillez sur un système de conduite autonome, vous êtes intéressé de savoir, par exemple, quand un obstacle se présente devant le véhicule, à quel moment le conducteur va freiner. parce qu'il va juger que ce véhicule qui précède, par exemple, commence à être trop près. Donc ça, c'est des informations qui sont importantes, par exemple, pour calibrer un modèle de conduite autonome et que le comportement du véhicule soit ressenti comme naturel par la personne qui se trouve dans la voiture. Mais vous avez, pour cela, besoin de données qui soient purement anonymes et agrégées. Donc vous pouvez collecter ces informations, développer les modèles, ensuite vous n'avez plus besoin des informations et de toute façon elles sont complètement anonymes et c'est très important qu'elles le soient.
Mais en même temps, si pour alimenter l'intelligence artificielle il faut le plus de data possible, on s'inquiète toujours de savoir où est-ce qu'on envoie nos data et si elles partent aux États-Unis chez les géants de la tech, on se dit qu'on n'a aucune chance en Europe et en France en particulier d'obtenir des résultats dans ce domaine. On se condamne à rester dépendant.
Alors c'est pas exact parce que d'abord ces géants de la tech sont largement implantés en Europe. Vous avez beaucoup d'opérations de cloud, puisque c'est le mot consacré d'Amazon par exemple, qui sont exécutées en Europe sur des serveurs qui sont basés sur le sol européen. Et puis vous avez, et c'est tout l'objet de l'accord entre Stellantis et Amazon, une collaboration extrêmement riche et profonde sur les algorithmes même. Et donc nous, notre désir, c'est surtout pas de dépendre d'Amazon, c'est d'apprendre d'Amazon. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'accord, on a créé également une software, une data academy, une école du software et de la donnée, et qu'on va former plus de 1000 ingénieurs par an au sein de Stellantis, grâce à cette école, avec des contributions d'Amazon. Donc c'est, vous voyez, on est sur une logique de développement de nos compétences, certainement pas de faire confiance.
C'est un véritable échange de technologies. Au fond, nos voitures en Europe sont bien meilleures que les voitures américaines, mais pour tout ce qui est connexion, c'est eux qui règnent. En fait, on échange nos technologies.
Absolument, et on les échange d'ailleurs d'autant plus que l'accord prévoit également que Amazon nous achète des véhicules utilitaires électriques pour ses livraisons du dernier kilomètre. Et donc, on voit que là, c'est la technologie de véhicules électriques du groupe Stellantis qui est acheté par le partenaire Amazon pour ses besoins. Et donc, on a effectivement quelque chose qui est très équilibré en matière d'échange technologique.
Dernière question, Yves Bonnefond. Les premières Citroën, Peugeot, les premières Maserati, les premières Opel, Chrysler ou Fiat, puisque toutes ces marques appartiennent à votre groupe, qui sortiront issues de ce partenariat, c'est pour quand ?
2024.
En 2024 ?
En 2024, vous verrez tout ça arriver dans la rue.
Merci Yves Bonnefond. Je rappelle que vous êtes toujours à Las Vegas, hein, où se tient le Consumer Electronic Show.
Merci beaucoup.
On fait une pause, on se retrouve juste après avec Laetitia Casta et sa fine boue.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Laetitia Casta, je vous ai vu cette semaine au Théâtre du Rond-Point dans la pièce de Serge Kribus, Clara Askill, Prélude et Fugue. Vous y interprétez la célèbre pianiste Clara Askill, de la petite enfance jusqu'à la mort, mais aussi sa mère, sa sœur, ses oncles, ses professeurs et même les musiciens qui l'ont accompagnée. C'est un véritable tourbillon. À la fin, toute la salle s'est levée dans un déchaînement d'applaudissements. Vous vivez votre consécration en tant que comédienne?
Non, c'est pas du tout une consécration. Je le vis plus comme un cadeau, une joie d'être à un endroit où je rêvais d'être, c'est-à-dire un terrain de jeu, une liberté, et d'avoir aussi un partenaire fondamental qui est Safi Nebou, qui est en face de moi, le metteur en scène, avec qui je pouvais effectivement aller à cet endroit-là. Voilà, mais ce n'est pas une consécration du tout.
Safi Nebou, vous êtes en effet le metteur en scène de cette pièce. C'est quand même un sacré défi pour une comédienne, non ?
Ah oui. Un seul en scène pour une comédienne, 1h35, 17 personnages. moi, je n'en connais pas beaucoup qui sont capables de tenir ce défi.
Surtout que dans une pièce normale, on fait semblant de vivre une histoire avec ses partenaires, mais dans un seul en scène comme celui-ci, on fait semblant qu'on a des partenaires. On fait semblant doublement, en fait. On fait même semblant au carré, j'ai l'impression.
En fait, c'est plus on y croit. C'est-à-dire, c'est comme les enfants, ça a été un mot d'ordre de notre travail dès le départ. On joue comme un enfant et on y croit.
Mais déjà, ça, c'est très dur. On ne sait plus jouer comme un enfant, justement. On est même étonné de se dire qu'on a joué au petit soldat ou à la poupée. Comment on faisait ?
Ah, ben, il ne faut pas grandir, c'est tout.
C'est l'indication véritablement que vous lui avez donnée principale. Joue comme une enfant.
D'une certaine manière, pas forcément comme une enfant, mais avec la même liberté. C'est-à-dire sans avoir la sensation du regard de l'autre. Parce que l'enfant, il n'a pas la sensation qu'il est regardé, observé. Et c'est pour ça qu'il est très au présent, qu'il joue, qu'il y croit, qu'il est sincère, qu'il est vrai. Parce qu'il n'a pas peur d'être mauvais. Et ça, c'est une énorme force, quoi.
Mais d'ailleurs, où regarde-t-on? Parce que dans une pièce normale, on regarde ses partenaires. Quand on fait du stand-up, on regarde le public. Quand on joue un monologue, on regarde dans le vide. Mais là, vous, vous regardez où? Vous regardez alors, quoi? Vous regardez qui?
Ça a été très compliqué, cette idée du regard. On l'a cherché pendant longtemps dans le travail. C'est-à-dire que forcément, quand on a travaillé, le public n'était pas là. Et on s'est posé la question, à qui s'adresse-t-on? Dans la voix du narrateur? Dans la voix de Clara Askill? Mais à quel âge? 66 ans ou à 4 ans? Et tout, finalement, il y a plusieurs voix. À des moments, c'est le narrateur qui parle. Très peu d'ailleurs, il y a peut-être une ou deux phrases. À des moments, c'est Clara petite et par moments, ça passe aussi par les autres personnages. Mais vous savez, je ne suis pas seule en scène. D'abord, il y a la pianiste. Shil Bengi qui est absolument exceptionnel. Et puis, j'ai d'autres partenaires. La lumière, qui me donne par moments les moments de départ. J'ai l'ambiance aussi, qui est très présente, une construction d'ambiance de la mise en scène. Et il y a aussi ces trois pianos sur scène qui sont fondamentaux.
Justement, Safine Bou, vous auriez pu très bien imaginer Laetitia Casta s'asseyant derrière un des pianos et puis vous auriez diffusé un enregistrement de Clara Askill. On en dispose de nombreux. Donc, vous avez choisi qu'il y ait une vraie pianiste. Pourquoi?
Oui, à la différence du texte d'ailleurs de Serge Kribus, dans lequel il n'y a pas de pianiste. Parce que, vous savez, je suis parti d'un film que j'adore, l'arrangement d'Elia Kazan, dans lequel Kirk Douglas se revoit en permanence, enfant. Et mais il est là, il est dans la scène. Et je me suis dit, mais ce serait magnifique finalement de retrouver cet effet miroir entre une Laetitia qui est Clara Askill et qui se revoit comme pianiste. Donc quand vous parlez du regard, par moments, ce qu'elle regarde, c'est elle-même en fait. Elle se regarde, et beaucoup. Elle se regarde jeune pianiste, elle se regarde en train le jour du concert, elle se regarde comme une petite fille, elle se voit sur le quai de la gare. De toute manière, c'est un regard introspectif. Et donc cette idée-là, elle m'est venue aussi parce qu'il m'a semblé qu'on ne pouvait pas parler de musique pendant une heure et demie et entendre un CD, quoi. Et d'ailleurs, Ishil a été coaché pour essayer de s'approcher, en tout cas dans la sincérité, dans la vérité du jeu de Clara Askill. C'est un jeu qui est vraiment dans l'esprit, on va dire, de ce jeu si délicat, si précis, si sincère qu'avait Clara Askill.
Clara Askill, c'est vraiment un cas dans l'histoire de la musique classique au XXe siècle. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle, Laetitia Casta?
Je vais être honnête, moi je ne suis pas une grande spécialiste de la musique classique et même vous dire la vérité, je ne connaissais pas Clara Askill.
Donc c'est le personnage, c'est le texte qui vous a intéressé, vous?
C'est plus la sensibilité du regard de cette femme, d'abord sur elle-même et son vécu.
Oui, parce que c'est ça. Ce qui fait que c'est un cas, c'est parce que cette pianiste surdouée, toute sa famille s'est sacrifiée pour elle, tout le monde l'a trouvée éblouissante, et pourtant sa carrière n'a vraiment démarré qu'à l'âge de 50 ans, après des années de misère, de drame, de problèmes de santé et de guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Et en plus de ça, elle est juive, enfin ça faisait beaucoup, quoi. Sa carrière a quand même démarré avant. Elle a eu beaucoup de succès à Vienne. Enfin,
oui, mais à chaque fois, ça ne se répète
mais
pas.
Mais pas à Paris.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est très tard où elle a commencé.
Elle a un succès à Vienne et puis on ne la réengage pas avant 10 ans. C'est ça,
oui,
le mystère.
Oui, elle a du mal à obtenir des contrats, mais voilà. Elle est aussi responsable de ça, puisque c'est quelqu'un de très exigeant, qui ne veut pas jouer sur n'importe quel piano, qui est maladivement douteuse et d'elle-même et de son talent, donc il va freiner les choses. Et au fur et à mesure, ses amis, les mécènes, tous ces gens qui croient en elle, qui l'aiment pour elle, vont la pousser vers la fin à se libérer et finalement à aimer ça.
Elle dit à un moment dans la pièce, j'ai 41 ans et même pas de quoi me payer une paire de gants. Et on est dans les années 30 et si elle n'avait pas effectivement ses mécènes, elle serait clochardisée. Hein. Il y a tout de même un mystère dans son cas. Pourquoi une pianiste aussi prodigieuse, dont Charlie Chaplin dira plus tard qu'il a connu trois génies dans sa vie, Einstein, Churchill et Clara Askill, pourquoi une pianiste aussi formidable ne trouvait pas de contrat? Vous avez cherché une explication?
Moi, je crois que c'est parce qu'elle elle avait une manière tellement, elle avait tellement d'humilité dans son jeu que d'une certaine manière, elle disparaissait d'une certaine manière. Elle a pas réussi à exister, quoi. C'est fou, hein. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que cette humilité, c'est ce qui fait la puissance de son jeu et la puissance de son être, de ce personnage. Et en même temps, à l'époque, elle a pas réussi. Parce que justement, comme elle le dit dans la pièce,
elle n'est pas dans les codes.
Elle n'est pas dans les codes, elle est atypique, elle ne joue pas en force.
Elle a une
manière de jouer Mozart, par exemple, qui est très, 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 très personnelle et qui fait que ce genre de choses, parfois, il faut du temps. Et elle, il y a eu les deux guerres, ce qui n'a rien arrangé, donc elle a piétiné, ça n'a jamais démarré. Et c'est vraiment comme un film hollywoodien, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où ça démarre, elle meurt, quoi. C'est horrible.
C'est quasiment ça. Et vous parlez d'humilité, mais vous la jouez alors à la fois humble aussi, mais débordante d'énergie, puisque il le faut, ne serait-ce que pour habiter tous ces personnages qui l'entourent, et puis elle qui passe par toutes sortes d'émotions en permanence. Je vous dis, vous sortez de là, j'imagine, lessivée.
Oh ben c'est le but. Sinon, pourquoi aller sur scène si on se donne pas? C'est ça qui est magnifique et qui est beau. Et si je ne ressors pas fatiguée, c'est que je suis passée à côté de quelque chose.
Sophie Nebout ?
Moi, je trouve qu'en même temps, Laetitia, elle est fatiguée. En même temps, elle est pleine d'énergie quand je la retrouve à la fin du spectacle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui...
Oui, je démarre fatiguée.
Oui, c'est ça. Souvent, à la fin, moi, je la trouve plus en forme. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup, elle avait
vous
été...
vous démarrez morte.
Oui, c'est pas faux. Ça commence mal. Mais c'est vrai que c'est très beau dans la manière dont tu vas chercher cette énergie qui te porte et qui nous porte, quoi, et qui fait qu'à la fin... Certes, il y a toujours quelque chose. Justement, hier, là, c'était très beau, la manière dont les jambes flageolantes et en même temps lumineuses, quoi. Quelque chose de. Voilà,
Vous la jouez jusqu'au 23 janvier au Théâtre du Rond-Point, dans la très grande salle du Théâtre du Rond-Point. Puis en tournée, vous la jouerez à Vevey, en Suisse, où elle vivait, Clara Askill, près de chez Charlie Chaplin, et à Athènes. Pourquoi Athènes?
Pourquoi Athènes et pourquoi pas?
Oui, certes, mais je me suis dit, tiens,
parce que je vois pas, la Suisse c'est sympa, mais Athènes c'est pas mal.
Il faut dire qu'on a un producteur qui aime beaucoup beaucoup la Grèce, Olivier Guzman, et qui est très spécialisé sur l'international, donc on va aussi le jouer en Chine, on va le jouer en Italie, en Israël, donc voilà, si le Covid nous laisse un peu tranquille, on a une belle tournée internationale.
D'accord, mais il y a Athènes d'abord.
Mais Athènes quand même, quoi, oui.
Merci tous les deux d'être venus sur Europe 1, merci Laetitia Casta et bonne pièce.
Merci. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. Rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Dans quelques minutes, vous retrouverez Les Grandes Voix, animées par Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Le programme?
La phrase de la semaine, emmerder les non-vaccinés au-delà de l'aspect purement sanitaire. À quoi joue Emmanuel Macron? Valérie Pécresse dans les starting blocks, Karcher à la main. Et puis au Kazakhstan, qui se cache derrière Kassim Tokayev? Peut-être un certain Vladimir Poutine, mais on n'en est pas sûr. À tout de suite.
Bonne émission.